RFI, grand reportage.
Mehdi Medev.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Depuis le 1er janvier, le cannabis est légal en Californie. Joints, vaporettes, chocolat, confiserie, thé et même gel douche et shampoing à base de cannabis. L'état le plus libéral des États-Unis décline la marijuana sous toutes ses formes. Seule condition, avoir 21 ans et ne pas consommer en voiture ou dans la rue. L'enjeu économique de cette légalisation est énorme car le marché du cannabis est évalué à plusieurs milliards de dollars. C'est aussi la promesse de recettes fiscales nouvelles pour les collectivités locales américaines. Mais l'administration Trump menace de freiner ce que les Californiens appellent déjà le « green rush », la ruée vers l'or vert. Car le cannabis est toujours interdit par la loi fédérale aux États-Unis. Cannabis, le « green rush » californien, un grand reportage d'Éric Desalves.
On inspire profondément. On expire en ouvrant la bouche.
Inspiration, expiration dans une salle enfumée au cannabis. Nous sommes à San Francisco en pleine séance de ganja yoga.
Vos mâchoires sont détendues. Vous sentez le cannabis pénétrer votre corps profondément.
Sur des tapis en mousse, une vingtaine de participants, tous sont en état d'ivresse cannabique.
Je m'appelle Grégory, je viens ici depuis le tout premier ganja yoga à San Francisco. Je ne rate pas un cours, c'est une merveilleuse façon de prendre conscience de mon corps. Je faisais déjà du yoga, mais avec le cannabis, avec beaucoup de cannabis, j'ai l'impression que je peux vraiment sentir et travailler certains muscles d'une façon tout à fait nouvelle. J'adore ça.
Je m'appelle Joe. Le ganja yoga, c'est une façon extraordinaire de se détendre. Je sors d'une journée de travail stressante. J'espère me débarrasser de ce stress avec un bon travail respiratoire.
La séance est dirigée par une trentenaire dynamique, Dee Dussault, professeure de yoga, de tantra, coach sexuel et surtout pionnière en ganja yoga. Elle en a même fait un livre.
Si vous allez sur les berges du Gange en Inde, vous verrez les sadhus faire du yoga en fumant du hash à la pipe. Je n'ai pas inventé cette combinaison, mais j'ai été la première professeure à l'importer et à la proposer au public en Occident. C'est assez stimulant. Je viens de Toronto, au Canada. Quand j'ai commencé, j'étais la seule. Maintenant, il y a plein de cours de ganja yoga. C'est devenu une sorte de mouvement. Fumer ou manger du cannabis aide à diminuer le stress, l'anxiété. Vous commencez votre session de yoga d'une meilleure base pour la relaxation. Vous en êtes déjà proche.
En
2016, par référendum, la Californie a légalisé l'usage récréatif du cannabis en adoptant la désormais célèbre Proposition 64. Une légalisation entrée en vigueur le 1er janvier dernier. Depuis, sur la côte ouest des États-Unis, l'herbe se consomme à toutes les sauces.
On propose différents aliments, des truffes au chocolat avec différents parfums. Elles sont toutes fourrées à l'huile de cannabis. On fait aussi des bonbons au cannabis indica, sativa ou hybride avec plusieurs parfums. Pastèque, gingembre, citron, mandarine ou menthe. Ceux à 10 mg conviennent presque pour tout le monde. Mais pour commencer, pour quelqu'un qui n'a jamais essayé, les bonbons menthe à 5 mg, c'est parfait. C'est juste 5 mg, c'est pas énorme. Et on sent les effets à partir de 20-25 minutes.
Nous sommes dans un hôtel de luxe de San Francisco où se tient la conférence internationale du business du cannabis. Jeune chocolatier, Alan vient y présenter ses confiseries au hashish.
Quand vous expérimentez ce genre de produit pour la première fois, vous vous sentez un peu plané. Vraiment pas du tout comme d'habitude. Mais fumer de l'herbe, c'est mauvais pour les poumons. Donc nous, on propose de consommer de la marijuana de la façon la plus saine possible.
Tous les professionnels de cette jeune industrie sont là. L'intervention la plus écoutée est celle du très officiel Bureau of Cannabis Control. C'est l'instance californienne de régulation du marché, celle chargée de délivrer les licences de vente et de production. Les demandes explosent, il faut dire que le marché représente déjà plusieurs milliards de dollars. Certains parlent même d'un green rush, une ruée vers l'or vert, tendance confirmée par Alex Traverso, le chef de la communication du Bureau of Cannabis Control.
C'est énorme. Selon les estimations, le marché pourrait valoir 4 milliards de dollars, 6 milliards, 10 milliards. Enfin, je veux dire, nous sommes en train de le réaliser, en fonction du nombre de licences délivrées. Rien que le premier mois de légalisation, nous en avons accordé 2500. Ça dépasse nos attentes. Ça va être un marché énorme. Au cours des trois premières années, nos estimations de recettes fiscales tournent autour d'un milliard de dollars. Et il s'agit d'une estimation basse.
Mais à Washington, cette légalisation n'est pas du tout du goût de l'administration Trump. Au niveau fédéral, le cannabis est toujours interdit, considéré au même titre que l'héroïne. Quatre jours après sa légalisation en Californie, Jeff Sessions, ministre de la Justice américain, a donc renforcé l'arsenal juridique pour réprimer son commerce, au grand dam d'Alex Traverso.
Je me suis dit, oh mon Dieu, notre lancement a été un succès. On délivrait les licences plus vite que prévu. Tout se passait super bien et il y a eu ça. Nous avons eu un lancement en douceur et le gouvernement a voulu intervenir en disant « Eh oh, on est toujours là ?» en instillant la peur dans les esprits. Mais nous, ne changeons rien. Personne ne nous ordonne d'arrêter. On va continuer d'avancer. Nous vivons dans un état où tout un tas d'élus sont prêts à monter au front si quelqu'un essaye de nous retirer nos droits. L'industrie est ici pour rester. Elle est déjà si forte qu'il serait difficile de l'anéantir.
Cette situation de semi-légalité a des conséquences bien concrètes sur l'industrie. Nous sommes à Harborside, à Oakland, l'un des principaux points de vente de Californie. Un hypermarché du cannabis. À la caisse, les clients ont le choix entre des centaines de produits. Mike vient faire ses courses pour la semaine.
Je ne pensais pas voir ça un jour. C'est quand même sympa d'avoir le droit de jeter son sac de bœuf sur le tableau de bord et de rentrer chez soi. Je fume depuis plus de 50 ans, donc c'est la liberté. Et je la découvre, plus peur d'aller en prison ou d'avoir un problème. Ça fait une sacrée différence.
Une liberté encore fragile. En raison de la prohibition fédérale du cannabis, les banques américaines ont interdiction de recevoir l'argent de son commerce. Toutes les transactions doivent donc se faire en liquide. Résultat, les cannabis stores sont sécurisés comme des coffres-forts.
Pour chaque personne qui entre, on ouvre et on ferme la porte, par politesse, mais aussi par sécurité. Tout le monde doit aussi passer par le portique de sécurité et le détecteur de métaux. À Oakland, c'est un truc culturel. Beaucoup de gens sont armés, pistolets, couteaux. On n'autorise pas ça ici. Quand quelqu'un est armé avec plus qu'un couteau, on le raccompagne à sa voiture et on lui demande de partir. On a aussi un gros dispositif de vidéosurveillance. Plus de 64 caméras et on continue d'en installer. Chaque mètre carré de la propriété est couvert. Dehors, on a des caméras assez perfectionnées qui nous permettent de zoomer sur des longues distances. Quand mon équipe doit approcher un véhicule, on peut voir ce qui se passe avant. À cause des fédéraux qui nous interdisent d'utiliser des cartes bancaires, on ne fonctionne qu'avec du liquide. Comme c'est légal dans l'État, mais illégal dans le pays, le gouvernement nous empêche de déposer de l'argent à la banque. Du coup, on a toujours de grosses sommes d'argent en cash ici, et cela fait de nous une cible idéale.
Longue barbe, stature imposante, grand amateur de Marie-Jeanne, Steve est responsable de la sécurité d'Harborside. En quelques mois, il s'est déjà fait quelques grosses frayeurs.
Cannabis clubs were being targeted.
Les magasins de cannabis ont été attaqués. Nos vendeurs, nos fournisseurs arrivent ici avec de grands sacs. C'est évident qu'ils ont plus que leur simple portefeuille sur eux. Alors des gangs se cachent en face, de l'autre côté de la rue. Ils travaillent en équipe de voitures avec un guetteur qui surveille quand les gens partent pour alerter un complice par SMS. Ensuite, ils le suivent et ils le volent dans sa voiture à l'arraché. Le pire, c'est quand il y a une confrontation physique. J'ai eu des problèmes avec des gens qui nous surveillaient. Rien que ce mois-ci, j'ai été braqué à l'arme à feu 2 fois et 1 fois au couteau. Ça arrive, on doit se tenir prêt. C'est pour cette raison que nous avons une grosse équipe armée à l'extérieur. Le climat se dégrade, c'est nécessaire.
Le site est protégé en permanence par 8 agents de sécurité armés. Ironie de l'histoire, la plupart sont d'anciens policiers. Leur société, Core Security Solutions, a été fondée par un ancien chef de la police des stupes d'Auckland, chargé pendant des années de lutter contre le trafic de cannabis. Michael Yeol fait aujourd'hui l'inverse en sécurisant son commerce.
Well, yeah, I mean, it's kind of funny because I think about 20 years ago, I had the largest seizure of marijuana.
C'est assez drôle. Il y a 20 ans, j'étais enquêteur pour les stupes et j'ai réalisé la plus grosse saisie de marijuana de l'histoire d'Auckland à l'époque. Mon opinion a beaucoup changé. Je suis pro-cannabis maintenant. Je crois à son usage médical. Dans ma famille, certains en bénéficient. Ma mère souffre d'une arthrose terrible et depuis un mois, on lui a proposé du cannabis. Elle a vu sa douleur diminuer et sa mobilité s'améliorer.
Le Golden State a été le premier à légaliser l'usage thérapeutique du cannabis aux États-Unis. C'était en 1996. Depuis, 29 autres États américains ont fait le même choix.
Ça, c'est l'une de mes préférées du moment. C'est une hybride indica, fraise banane.
Ah ouais, ça sent bon. Oh, ça j'aime.
Depuis qu'il est rentré d'Irak, Tim, 33 ans, vétéran de l'armée américaine, vient chaque semaine dans son dispensaire habituel d'Auckland se fournir en herbe.
C'est combien ça au gramme ? J'ai une réduction vétéran.
Avant la légalisation, l'herbe lui était prescrite par un médecin. Aujourd'hui, en tant que vétéran de l'armée, il bénéficie d'une remise de 15%.
Je suis un vétéran de l'armée, invalide. J'ai combattu en Irak en 2006. Pendant des années, j'ai pris plein de médicaments pour surmonter mon PTSD. C'est un syndrome post-traumatique, ainsi qu'une dépression. Et au bout du compte, le cannabis m'a plus aidé que les médicaments. Je fume plutôt le soir, ça m'aide à dormir et ça m'empêche de faire des cauchemars. À cause de mon PTSD, je rêve que je suis de retour en zone de guerre, c'est effrayant. Et si je fume avant de dormir, en général, je ne fais pas de cauchemars. Quand j'ai essayé, dès le premier soir, je me suis dit, c'est génial ce truc. Je me sens calme, je peux communiquer avec ma femme, mon fils, c'est incroyable. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce illégal ?
Dans ce dispensaire baptisé Magnolia Bien-être, tous les âges, toutes les origines ethniques et sociales se croisent. Installée dans un sofa, Linda se présente ici comme une patiente guérie de la dépression grâce au cannabis qu'elle administre aussi à sa mère de 84 ans.
I consume cannabis from sun up to sundown, on a day every day. It's medicine.
Je peux fumer du cannabis du lever au coucher du soleil, le jour, la nuit. C'est un médicament. Je souffre de dépression et d'anxiété. Le cannabis m'en a guéri. J'en donne même à ma mère mourante de 84 ans. Le cannabis l'aide pour sa dialyse. Je lui donne des biscuits au cannabis, je lui souffle la fumée dessus. En fonction de son état, elle adore ça, vraiment. Je suis désolée, mais le cannabis, c'est la vie.
So we're at Magnolia Wellness and...
Bienvenue chez Magnolia Bien-être. Nous sommes un dispensaire de cannabis à West Auckland. Pour nous, la communauté ici est très importante. Nous faisons tout pour que les gens se sentent bien et les bienvenus à chaque fois qu'ils viennent ici.
Cathy Rabinowitz est manager du dispensaire Magnolia Bien-être. Sur son bureau trône une gigantesque pipe à eau encore fumante. À 24 ans, elle est tout juste diplômée de la première université du cannabis des États-Unis, fondée à Auckland en 2007 par des activistes promoteurs de l'usage thérapeutique du cannabis.
Absolutely, I went to the Cannabis College out here.
J'ai étudié ici à l'université du cannabis, juste après le lycée. Je suis dans l'industrie du cannabis et manager ici depuis mes 19 ans. Prendre soin des gens, fournir un cannabis d'exception, c'est vraiment important pour moi. J'ai moi-même bénéficié du cannabis et après le lycée, je voulais faire quelque chose d'utile. Mais je viens de l'Ohio, il n'y a pas de cannabis dans l'Ohio. Alors je suis venue en Californie pour travailler dans cette industrie. Donc je savais que coming out to California would give me the opportunity to really learn
and become involved and immersed in the industry. La légalisation a transformé l'image du cannabis. Changement de paradigme, de drogue dangereuse, le chanvre indien dont il est issu se conçoit désormais comme une plante médicinale. Mais fumer de l'herbe est-il pour autant inoffensif? Ce n'est pas l'avis du docteur Steth Hammerman. Ce pédiatre spécialiste des addictions et chercheur à l'université de Stanford s'est opposé à sa légalisation.
Il y a une forte croyance selon laquelle parmi toutes les drogues, le cannabis serait bénin. Cette croyance vient du fait qu'aux États-Unis, 50% des adultes ont déjà essayé le cannabis et que parmi les adultes qui en font une consommation modérée, la plupart ne rencontrent pas de problème. Pour autant, ce qui est bénin pour un adulte ne l'est pas forcément pour un enfant. On sait maintenant que le cerveau peut se développer jusqu'à 25 ans. Et nous avons découvert que l'usage régulier de psychotropes peut altérer le développement normal du cerveau. Et cela n'est probablement pas une bonne chose. Si on s'attarde sur les conséquences sociales, on sait aussi que l'usage régulier de cannabis par un adolescent a tendance à aggraver les éventuels problèmes mentaux. Les taux de décrochage scolaire sont plus élevés. Les performances professionnelles sont moins bonnes, les taux de problèmes mentaux de type anxiété, dépression sont plus élevés, et aussi en cas de tendance schizophrène, le cannabis accélère le déclenchement des symptômes. Donc, ce qui est bénin pour un adulte ne l'est pas forcément pour les adolescents ni pour les jeunes adultes.
La légalisation, un des plus vieux slogans du hip-hop américain, a commencé par Cypress Hill, groupe de rap légendaire de Los Angeles dans les années 90. Pour autant, DJ Muggs, un des fondateurs de Cypress Hill, est militant de la légalisation depuis des années, mais lui aussi en garde sur ce produit.
You know, we've been working on this for a long time, like 30 years, so.
On œuvre depuis 30 ans pour la légalisation, donc je suis content. Mais certaines personnes ne devraient pas fumer parce que ça ne marche pas avec leur corps, ça les fait juste dormir. Donc la légalisation doit s'accompagner d'une éducation parce que ce n'est pas bon pour tout le monde. Mais je suis content que tous ces jeunes qui vont en prison pour un joint soient maintenant libérés et qu'on en finisse avec ces conneries. À notre époque, c'était vraiment la contre-culture, c'était vraiment risqué d'en parler à la télé, de fumer de la marijuana, les gens allaient en prison pour ça. Maintenant, c'est plus rebelle de fumer une cigarette que de la marijuana. Now smoking cigarettes is more rebellious than marijuana.
Selon de nombreuses associations, la prohibition était appliquée de façon discriminatoire. Avec des niveaux de consommation équivalents, les personnes de couleur étaient en moyenne 4 fois plus arrêtées que les blancs. La légalisation, c'est aussi l'amnistie générale. Depuis son entrée en vigueur, des milliers de condamnations remontant parfois aux années 70 sont progressivement annulées en Californie. Le Green Rush californien, grand reportage, Éric Desalves, réalisation, Pierre Chaffangeon.
Take hits from the bomb.